C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes bien, et même très bien, sur O2 Radio 91.3. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Il est 14h passées de quelques secondes à notre horloge. Bienvenue dans Cinéscent, l'émission qui est au cinéma ce que la moutarde est à la choucroute. Oui, on pourrait s'en passer, mais c'est tellement bon. Bon, allez, stop. Après les semaines passées qui, pour certains et certaines, ont été intensément culinaires, il est temps d'arrêter les métaphores culinaires. Pourtant, à la régie, qui ressemble à un bocal, Annelise pourrait faire penser à un petit poisson aux yeux bleus. Bonjour Annelise.
Bonjour Jean-Jacques.
Comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Ça va très bien, bon, merci. Et dans le studio, en face de moi, se trouve le groupie des pommes sarladaises, Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous allez
bonjour
bien
Annelise.
Bonjour Patrick,
et bonjour
vous allez
Lilou.
Bien
et oui, mais pas que des pommes sarladaises. Non, confit de canard va très très bien avec.
Oui, mais on va s'arrêter là. Quoi. Alors, Annelise, vous êtes... Ah oui, vous êtes là. C'est un genre cinématographique que nous allons consacrer l'épisode numéro 15 de Cinéscent. Mais lequel ?
Polar ? Vous polar. Avez dit polar ?
Non, j'ai rien dit.
Eh bien, oui. Et pourtant, les polars, ces films noirs qui mêlent suspense, crime et intrigue, occupent une place de choix dans l'histoire du cinéma. Né dans les années 40, avec le film noir hollywoodien, ce genre nous plonge dans des univers sombres où les détectives désabusés croisent des femmes fatales et des criminels machiavéliques. Pensez au film Le Faucon Maltais de John Huston en 41, ou ouais. Encore Laura de Otto Preminger, sorti en 44. Et oui, des chefs-d'œuvre qui ont jeté les bases de l'esthétique du polar. Le genre a évolué ensuite et chaque décennie a apporté sa touche. Dans les années 70, c'est le triomphe des trailers urbains comme French Connection ou Serpico, où la ville devient un personnage à part entière. On retrouve d'ailleurs cette touche-là, où la ville est un personnage de l'histoire, dans Sin City.
Mm-hmm.
Et puis les années 90 ne sont pas en reste avec des polars plus psychologiques et violents, comme Seven ou Elle est confidentielle, qui explorent les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de polars, des polars de comédie ou encore des polars de science-fiction. Mais ce qui reste et restera toujours, c'est la tension palpable du polar, son suspense, sa recherche du coupable à travers la ville, le pays ou simplement la maison. Le polar nous coupe le souffle, nous empêche de dormir et c'est ce que l'on va disséquer dans cet épisode numéro 15 de Cinéscent.
Plutôt mec comme un indice. J'ai jamais vu une requête aussi con.
Après avoir marqué les esprits dans History of Violence, pour lequel Viggo Mortensen était la tête d'affiche, David Cronenberg remet ça 2 ans plus tard, en 2007, avec cette fois-ci Les Promesses de l'Ombre, que l'on peut d'ailleurs considérer comme une suite spirituelle à History. Mortensen est rejoint par Naomi Watts et Vincent Cassel pour une plongée dans une mafia russe au cœur de Londres, où la violence et les twists s'enchaîneront bien comme il faut. Allez, un pitch peut-être.
Oui, très court. Hein.
Oui.
Une jeune sage-femme se retrouve à enquêter pour retrouver les parents d'une adolescente décédée en accouchant. Dans son enquête, elle met le doigt dans un engrenage dont les rouages lui échappent complètement. Trafic de substances illicites, assassinat, proxénétisme de mineurs.
Et c'est la confrontation entre deux mondes, celui des gens ordinaires et celui des mafieux. Les premiers voulant tout simplement ignorer les seconds pour s'en préserver, alors que ces derniers n'ont que mépris pour les premiers. Il y a un certain fond critique perceptible quant au fait d'ignorer le monde du crime quand on n'en fait pas partie. Ne pas le faire disparaître pour autant, ce qui est assez appréciable. Une petite bande-annonce peut-être ?
On pense qu'il faisait partie de la mafia russe.
Oui, il était membre de l'Or Zakoni. Dans les prisons russes, toute votre vie est tatouée sur votre corps. Des tatouages. Si vous n'avez pas de tatouages, vous n'existez pas.
Une jeune femme non identifiée est décédée le 20 décembre à 23h13. Et ce 20 décembre à 23h14,
Une petite fille est née.
Anya, où est-ce que tu as vu ça?
Je l'ai trouvée dans le sac d'une jeune femme morte dans mon service.
Il fallait l'enterrer avec ses secrets.
Je suis sage-femme. Est-il possible de parler au propriétaire?
Anna, je suis vraiment désolé. Si elle avait travaillé ici, je m'en souviendrais. C'est triste.
Ça ne fait rien. J'en apprendrai plus quand j'aurai fait traduire son journal.
Le nom de mon fils, Kirill, y a mentionné à plusieurs reprises. Si le journal se retrouvait aux mains de la police...
Ça va, patron. Vous inquiétez pas. Les flics ne trouveront rien.
Oubliez tout ce qui a pu se passer et évitez les gens comme moi.
Vous avez lu le journal. Comment pouvez-vous continuer à faire ce que vous faites?
Je décide ce qui est bien ou mal. On ne peut pas se permettre la moindre négligence.
Je dois savoir qui vous êtes.
Les vores sont quand même mal contagieux. Tu es condamné une fois qu'ils t'ont touché.
Ça, alors, ça nous met bien dans l'ambiance quand même.
Oui, quand
hein,
même.
Cette petite bande-annonce, moi j'aime bien, ouais. Alors, voilà, le casting est superbement efficace avec le duo Viggo Mortensen et Naomi Watts.
Ça fonctionne super bien.
Deux acteurs parmi mes préférés de leur génération, figurez-vous, et dont l'opposition frontale et le rapprochement progressif fonctionnent magnifiquement bien.
Que vous parlez bien.
De son côté, oui, j'ai bien écrit aussi. De son côté, Mortensen a travaillé l'allure de son personnage alors que le scénariste Stephen Knight en a écrit des répliques. Ça marche vraiment très bien. Et Nikolai dégage un charisme très puissant de par son professionnalisme posé et imposant. À côté de ça, Naomi Watts apporte une fraîcheur, une spontanéité, elle aussi autant par son allure que par ses répliques, qui se combinent très bien avec ce qu'apporte Viggo Mortensen.
Alors, petite anecdote, parce que je sais que vous en êtes friands. Alors, Sarah Jane Labrosse, vous savez, c'est une jeune actrice québécoise engagée à 15 ans pour interpréter le rôle de Tatiana.
C'est qui meurt en couche.
Tourner ses scènes à Londres au mois de décembre 2006 dans le film. On ne la voit qu'un bref instant dans les premières scènes, mais son personnage reste le principal enjeu de l'histoire. Le critique Thomas Sautinel a dit à propos du film:
une longue séquence se détache nettement. Un affrontement physique qui terrifie par sa cruauté et subjugue par sa beauté.
Subjugue,
bien sûr. Je l'avais, mais dans le désordre. Qui est à la fois le sommet et l'essence du film, cette beauté.
Tout à fait.
Alors, il veut bien sûr parler de la séquence dans le bain turc, magnifiquement chorégraphiée. Et il suffit à Cronenberg de deux scènes inaugurales pour injecter dans son film ce qui constituait l'essence de son chef-d'œuvre, History of Violence. Ainsi, à peine installé, le spectateur assiste à un règlement de compte sanglant chez un barbier. Oh, la première scène inaugurale, elle est d'enfer. Et à une naissance tragique marquée par la mort d'une mère adolescente. Alors, selon moi, il faut avoir vu ce film. Il est déroutant, il est violent, il est austère. C'est une plongée dans une mafia russe que l'on méconnaît. Alors, c'est pas un documentaire, loin s'en faut, mais c'est une véritable œuvre de fiction. Et rendons grâce à Cronenberg et à ses acteurs de nous faire frémir pendant 1h40.
Et la musique
dans tout ça, elle est signée par Howard Shore, dont Slavery and Suffering. Thank you.
film qui vient, rien ne vaut mieux que d'écouter ce qu'en disait son réalisateur.
Mais qui c'est ?
C'est l'histoire de cet homme donc, qui a perdu sa femme, qu'on a retrouvée morte en forêt 8 ans plus tôt, et qui était là le soir de l'enlèvement, et qui donc vit avec cette culpabilité pendant 8 ans, et de pas avoir pu vraiment la sortir de là, et qui est en phase de reconstruction, si je puis dire, hein, et au moment où il reçoit un email, où il découvre sur une webcam, en fait, dans une foule filmée en temps réel, une femme qui rentre de dos dans le champ, qui se retourne et c'est sa femme, qui serait donc vivante. Donc voilà, ça c'est le début de l'intrigue et du suspense, et voilà, c'est une grande histoire d'amour qui nous amène dans un thriller, un polar.
Et ce réalisateur, c'est Guillaume Canet.
Oui.
Et le film, c'est Ne le dis à personne, sorti en 2006.
Alors il ne faut pas en parler.
Eh ben non. Par une nuit d'été, donc Margot Beck, qui revient d'une baignade au clair de lune, est assassinée. Son mari, Alexandre, qui s'est précipité pour lui porter secours après avoir entendu ses cris, est tabassé puis jeté à l'eau. Après plusieurs jours de coma, Alexandre revient à lui, mais son épouse a disparu. Un temps soupçonné par les enquêteurs, il est finalement disculpé et le crime attribué à un tueur en série qui sévit dans la région.
Et 8 ans plus tard, notre héros n'est toujours pas remis de ce drame. Alors un jour, il reçoit un email contenant un lien vers des images de vidéosurveillance montrant sa compagne vivante et en bonne santé. Un message accompagne la vidéo « Ne le dis à personne ». Dans le même temps, 2 cadavres sont découverts à côté de l'endroit où Alexandre et Margot avaient été agressés 8 ans auparavant.
Alors la distribution est de haut vol, puisqu'elle comprend, outre François Cluzet et Marie-Josée Croze, André Dussolier, Christine Scott-Thomas, Nathalie Baye, Gilles Lelouch. Et écoutez bien ce que disait André Dussolier à propos de son personnage.
Jacques Laurentin, c'est un personnage cadeau de la part de Guillaume Canet, qui m'a fait jouer dans Ne le dis à personne. On était en train de jouer tous les deux dans Un ticket pour l'espace, de Cadet Olivier. Je savais pas qu'il avait l'intention de faire un film, Guillaume, et donc il me propose un personnage alors, comme j'aime, c'est-à-dire un mec qu'on m'avait jamais proposé, et que seul un acteur peut-être peut proposer, enfin, ou un metteur en scène plein d'imagination, comme il est, et donc il m'a proposé un personnage vraiment abîmé par la vie, et qui a commis des choses pas très catholiques.
Bon alors, le film, ben, il a triomphé au César, hein, remportant 4 statuettes. Cluzet en tant que meilleur acteur.
Normal.
Guillaume Canet, meilleur réalisateur.
Normal.
Mathieu Chédid, qui décrocha le prix de la meilleure musique.
Meilleur, normal.
Tandis qu'Hervé Deluz gagnait celui du meilleur montage. Le long métrage est adapté du roman du même nom du maître de suspense américain Harlan Coben.
Normal.
Guillaume Canet a écrit cette adaptation avec l'aide de son ami Philippe Lefebvre. Le réalisateur expliquait ceci.
En lisant le roman, je voyais les images. Je savais exactement comment je voulais le réaliser. Et une fois le scénario écrit, au moment de le tourner, j'ai essayé de ne jamais quitter cette ligne directrice, de rester fidèle à la première émotion que j'avais eue.
L'époux de Marion Cotillard s'est démené pour avoir adapté le livre, n'hésitant pas à appeler le principal intéressé qui voulait au départ vendre les droits de son roman à Hollywood. Mais Coben fut impressionné par la passion de Canet pour l'histoire et sa vision.
Bon alors, la distribution, on l'a vu, est de grande qualité.
Oui.
Guillaume Canet a tout de suite pensé à Nathalie Baye en écrivant le scénario. Il y a Florence Thomassin, dont on n'a pas parlé, qui joue aussi. Et à ce propos, Canet racontait, elle figurait sur la liste des gens avec qui je voulais travailler. J'ai donc cherché un rôle pour elle dans le film, La Vénarde. Canet a fait aussi
appel. Il m'a jamais appelé, moi.
Canet a fait aussi appel à ses amis. On retrouve François Berléand. Il était impensable qu'il ne fasse pas partie du film, déclara le réalisateur. Et il affirmait à propos de Jean Rochefort, si je fais du cinéma aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Pour Marina Hans, le choix est, disons, plus équin. J'ai grandi avec elle au travers des championnats de France junior d'équitation.
Et oui, comme ça, le cheval mène à tout. Outre les compositions de Mathieu Chédid, la bande originale intègre également la chanson « For Your Precious Love, Dirty's Rain ».
That's what
Quel beau voyage.
Magnifique.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Alors,
Sterling, j'adore.
Memories of Murder est un film écrit et réalisé par Bong Joon-ho, sorti en 2003. Alors, première question d'abord, mais qui est Bong Joon-ho ? C'est une bonne question.
Eh bien, c'est un réalisateur sud-coréen.
Oui, je m'en doutais.
Et ouais, qui a été palmé son film.
Ah, le film, oui. D'accord.
Pour son film. Oui, oui. Parasite.
Ah,
et
c'est
oui,
lui.
Tout à fait.
Ah,
et puis il a reçu même le prix du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes et 4 Oscars et le César du meilleur film étranger.
Mais quand même, quoi. Ouais.
En fait, il a aussi réalisé des films comme Le Snowpiercer et Okja. Mm-hmm. Ce ne sont pas des films de SF, malgré des personnages ou des bêtes un peu particulières, mais des vraies fresques de la société. Et c'est tout aussi vrai pour Memories of Murder.
Nous sommes en octobre 1986 et deux femmes sont retrouvées violées et assassinées dans la périphérie d'une petite ville sud-coréenne. Le détective local, Park Do-man, qui n'a jamais travaillé sur une affaire aussi grave, est dépassé. Les preuves sont mal récoltées, les méthodes d'enquête sont inefficaces et la technologie médico-légale est quasiment inexistante. Voici un petit extrait qui résume assez bien l'ambiance qu'il peut y avoir sur une scène de crime.
Le lieu est même pas protégé. Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous, clôturez tout le périmètre, nom de Dieu! Hein?
Inspecteur,
c'est pas vrai, quelle bande de nuls!
Venez voir!
Quoi, qu'est-ce que c'est?
Une empreinte de pas.
Et on l'a trouvé quand?
Ce matin, c'est moi qui l'ai trouvé.
Ouais, c'est bon, on va leur donner un coup de main là-bas.
Ouais, ouais, j'y vais.
T'as prévenu la brigade criminelle?
Oui, 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 je devrais pas tarder.
Hé, au fait, elle est où la personne qui nous a prévenu? Hein?
Par ici! Descendez.
Les types de la crime sont même pas arrivés encore et la scène du crime est même pas protégée! Ah! Tiens, voilà le vieux qui fait son entrée.
Je vais arriver
le
premier! Hey! Allez-vous-en!
Hey, les enfants! Allez-vous-en, restez pas là, allez! Hey! Chef! Ah, vous voilà enfin, bah c'est pas trop tôt.
Du Manuel Gant qui nous a appelés.
Restez pas là, les
enfants!
Bah,
c'est le bordel, ils ont pas été foutus de préserver la scène du crime, c'est n'importe quoi, ça! Et c'est vraiment une bande de nazes à la crime!
Allez, je veux plus loin, restez pas là, s'il vous plaît!
C'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Fallait photographier la scène tout à l'heure, quand je vous l'ai dit.
Pourquoi est-ce qu'ils sont déjà là? Pourquoi les journalistes ont été prévenus?
J'en sais rien, moi, ils étaient déjà sur les lieux quand je me suis pointé. Ah, ce salopard de Park, il n'est pas là? Il est en congé? Hein?
Je sais pas, on dirait...
Ça fait du bien de pas le voir, cet enfoiré.
Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver encore avec ce genre d'affaires sur les bras?
Ouais, j'ai comment on fait pour les analyses quand ça a été tout saccagé? Oh, le tracteur, là!
Attention aux indices!
Monsieur!
Marchez pas là!
Le tracteur, là! Et attention là, passez pas par là. Arrêtez, pas par là. Mais quel con, il a même pas regardé où il allait. À quoi ça sert d'avoir des oreilles s'il n'écoute pas? Putain. Et tu pouvais pas surveiller, toi?
Vous le trévassez? Tiens, les voilà, cette bande de feignants.
Ils n'ont rien à faire ici, ils sont en train de piétiner tout le périmètre.
Ça fait des plombs qu'on vous a appelé, vous arrivez seulement maintenant, hein? Toute la scène du crime est foutue. Ils n'ont pas arrêté de faire la voilà, comme ça, ça va aller plus vite. Vous allez trouver des indices en reniflant les fleurs des champs.
Oh là là, pourquoi ça tombe sur nous?
Bonne question.
Park prétend être capable de repérer des suspects par simple contact visuel.
Je sais pas comment tu fais pour arriver à regarder toutes ces tronches pendant que tu manges. Ouais, je sais pas.
Si je me concentre sur ces photos, car je les regarde bien, ouais. Je sais que je peux trouver des super indices. Oh. Je marche à l'instinct.
Tu te crois perspicace? Change de métier, alors. Hein?
Eh, ben voyons. Eh, je suis peut-être nul, chef. Mais je peux deviner qui sont ces types. C'est pour ça que je continue à bosser dans cette maison. Et c'est pas pour rien si tout le monde ici m'a surnommé œil de chaman. C'est qu'il y a une raison.
Très bien, on va voir ça. Tu vois ces deux types qui sont assis là-bas? L'un est un violeur et l'autre est le frère de la victime. Le frère a réussi à attraper et à nous amener le cinglé qui a violé à moitié étranglé sa sœur. Regarde bien, perce leur cœur. Et dis-moi qui est le violeur.
D'accord. Alors Park interroge un garçon handicapé mental, Bai Kwang-hu, qui a l'habitude de suivre l'une des deux victimes en ville. Le partenaire de Park, Cho, frappe Bak, le forçant à avouer.
Si Tae-young, un détective doté d'une formation plus scientifique, se porte volontaire pour les aider. Cependant, la différence entre ses méthodes et celles de Park provoque un conflit entre les deux enquêteurs. Seo affirme que Baek n'est pas capable de commettre les crimes qui lui sont reprochés. Après avoir étudié de près les rapports, il découvre les restes décomposés d'une troisième victime tuée plus tôt et apprend que le tueur agit exclusivement quand il pleut et qu'il cible les femmes portant du rouge. L'inspecteur Kno, une policière méticuleuse mais méconnue, remarque également que la nuit de chaque crime, la même chanson est demandée à la radio locale.
Moralisme, pourquoi ce film est différent des autres polars?
Oui. Eh bien parce qu'il raconte une histoire qui dépasse le cadre de la simple enquête pour mettre les hommes face à leurs propres conditions en employant un ton à la fois dramatique et satirique.
D'accord.
Alors les codes du polar en sont en fait complètement modifiés. La mise en scène, superbe d'ailleurs, montre une Corée grise et malade et l'intrigue permet de suffisamment développer les personnages pour leur donner du relief, donner du sens à leurs agissements et montrer leur évolution au fil de l'histoire. Je trouve que Bong Joon-ho a choisi de traiter ce film d'hiver avec la rigueur maniaque d'un David Lynch sur Zodiac. Un long travail de recherche...
David Fincher, pardon.
Un long travail de recherche et de documentation effectué en amont, une multitude de visites et d'entretiens avec de vrais protagonistes de l'affaire, un tournage effectué sur les lieux mêmes des événements pendant un an et surtout une plongée si profonde dans le vertige d'une enquête irrésolue que le réalisateur en serait arrivé à tutoyer la folie durant le processus créatif.
Alors une petite anecdote.
Oui,
le tueur a été arrêté en 2019, figurez-vous. Mais il était déjà en prison pour le meurtre de sa belle-mère. Il aurait avoué
sa
belle-sœur, oui, aussi. Voilà, ça fait un point.
C'était le 2.
Vous
pensez peut-être à votre vie personnelle.
Pensais à ma vie personnelle parce que j'ai tué ma belle-mère, effectivement. Il aurait avoué avoir commis des meurtres dont il était suspecté, mais également 3 autres homicides à cette même époque. Et encore 2 autres avant celui de sa belle-sœur. Taro Washiro a composé la musique du film.
Thank you.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Sur 91.3, eau de radio, bien entendu.
Voilà, je voulais faire un petit retour juste sur le
sur
le
la film, chronique film, précédente.
Oui, voilà, Annise, vous aviez commis une petite erreur en parlant de David Lynch au lieu de David Fincher. C'est parce que David Lynch nous a quittés la semaine dernière. C'est ça. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'aujourd'hui même, un grand metteur en scène français nous a quittés aussi, Bertrand Blier.
Bertrand Blier,
oui,
qui est parti à 85 ans.
Ouais, deux grands réalisateurs qui s'en vont.
Qui s'en vont comme ça, coup sur coup.
C'est ça.
Et donc, j'ai décidé, quant à moi, d'arrêter de réaliser des films.
Ça, c'est une très bonne nouvelle, par contre. Alors, à 14h28 bientôt, dans Ciné 100, il est temps de passer du grand au petit écran.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent, comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Et oui, vous l'avez reconnu, ce petit jingle de ciné-télé canapé. Donc, on va vous parler des films qui sortent à la télé, que vous allez pouvoir regarder sur une chaise, un canapé, par terre, dans votre cuisine, dans votre lit, dans la salle à manger, dans la salle de bain.
C'est bon,
bref,
c'est
où vous voulez.
D'accord. Mais ce sont des films qui sont sortis au cinéma ou
non,
pas nécessairement
ceux qui passent à la télé.
Vous comprenez rien. Qui passent à la télé, à la télévision.
Alors, que vous avez la parole, mardi ce soir, vous allez regarder
mardi
quoi,
mardi ce soir, moi, je vais regarder sur Paris Première à 21h.
Vous allez regarder quoi?
Je vais regarder Le Cerveau de Gérard Houry. Enfin, je vais pas regarder Le Cerveau de Gérard Houry. C'est un film de Gérard Houry. Avec Belmondo, David Niven, voilà, et Bourville, entre autres.
Non,
ça, c'était dans le corneau, ça. Voilà, c'est un célèbre et insaisissable truand anglais qui est nommé Le Cerveau, qui est auteur du fameux hold-up du train postal Glasgow-Londres, qui est recherché par toutes les polices d'Europe. Et il prépare un autre coup, mais il y a un petit escroc français, Arthur Lespidasse, qui vient de s'évader de prison à 4 jours de sa libération, qui a eu la même idée.
Bon,
voilà.
Et vous,
Eh bien, moi, on va aller sur Ciné Plus Festival.
Ah, je veux bien, oui.
Parce qu'à 20h50, on va avoir le droit de pouvoir regarder Taxi Driver, un film de Martin Scorsese.
C'est pas vrai, Martin Scorsese.
Avec Robert De Niro, Jodie Foster.
You're talking to me.
Pardon?
You're talking to me.
Yes, you're talking to me.
Bon.
Voilà.
Magnifique.
On va, alors, je vais peut-être pas... Voilà, votre grand film culte sur un...
C'est bon, c'est
magnifique.
Bon.
Magnifique
okay,
de jazz aussi.
Merci.
Et vous, Jean-Jacques?
Moi, on est qu'en mardi. Moi, j'ai rien mardi. J'ai rien.
Bon, bah voilà, vous voyez.
Mais moi, je passe directement à mercredi.
Eh ben, mercredi, oui. Alors, vous avez quoi?
Moi, je vais sur TCM Cinéma, 20h50. Je vais voir Le Sergent Noir de John Ford.
Oh.
Voilà.
Genre avec Sidney Poitier.
Mais sans John Wayne, pour une fois.
Ah oui.
Dans l'Arizona de 1881, un sergent-chef d'une compagnie composée exclusivement de soldats noirs passe en cour martial parce qu'il est accusé du viol et du meurtre de la fille du major. Et c'est un officier blanc, oui, blanc, qui le défendra, qui est convaincu de son innocence et qui assure sa défense face à l'avocat de l'accusation qui est notablement raciste et qui voudrait faire tomber sergent-chef noir.
D'accord. Et c'est avec qui?
Mais la vérité éclatera. Ce sont pas des comédiens très connus.
D'accord.
Donc on s'en fiche.
Mais c'est, non, c'est pas ça, mais il y a pas de John Wayne. C'est un film de 50.
D'accord, très bien.
Comme quoi, il n'était pas de partout quand même. Et vous, Patrick?
Eh bien, écoutez, moi, demain soir, je ne peux pas faire autrement que de squeezer Paris Saint-Germain, Manchester City pour regarder
film,
Arte.
Oui.
20h55.
Oui, vous allez.
Un film de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Elena Herring. Mulholland Drive. Effectivement.
Très grand film.
Très, très, très grand film.
On ne va pas s'apesantir dessus, parce que c'est très compliqué.
Il y a tellement de choses à dire, mais c'est absolument extraordinaire. Si on aime les films un peu avec des choses trappes, des tiroirs qui s'ouvrent et qui ne se referment jamais.
Après ça.
Eh bien, moi, sur Ciné Plus Frisson.
Encore ?
Non, tout à l'heure, c'était Ciné Plus Festival.
Ah, mais vous êtes abonné ou quoi ?
Non, pas du tout.
Il y a
une soirée Blade Runner. Bien sûr, comme à chaque fois, ils vont passer le deuxième avant
et
le premier.
Ah oui, ça, c'est une...
Donc, 20h50, Blade Runner 2045, 23h30, Blade Runner. Donc, deux grands films.
The Original,
tout à fait.
Ok, très bien.
Donc, à voir, à revoir, sans modération.
D'accord. On passe à jeudi.
Jeudi. Oui.
Le 23 janvier.
Tout
23 janvier.
Qu'est-ce que vous nous proposez?
C'est l'anniversaire de mes cousines. Si
moi, j'ai un film, mais
c'est
très tard.
Oui, à quelle heure?
À 23h55.
Oh là là,
my God.
Oui, sur Arte.
Oui, ça vaut le coup, hein, j'espère.
Bah écoutez, ça, le film s'appelle Olga de Ellie Grapt. C'est une jeune femme qui est athlète, une jeune femme ukrainienne, athlète, qui va pour fuir le régime pro-russe, va partir en Suisse pour, eh bien, son rêve, c'est d'intégrer l'équipe de helvétique, de gymnastique. Ah, et en fait, on va suivre un petit peu toute sa, eh bien, toute son intégration. Et puis, avec tous les événements aussi qui se passent en Ukraine, puisqu'il y a une révolution qui est matée par le sang. Et donc, elle est touchée littéralement par cette
révolution. Matée par le sang. Voilà. Vous êtes très curieux.
D'accord. Tout à fait. Très bien.
Bon,
Jacques, non,
je dis,
rien.
Si,
vous avez quelque chose, je dis quand même.
Sur Ciné Plus Classique, bien connu, à 18h45, beaucoup moins tard que vous. Un très grand classique du cinéma français, Mon oncle de Jacques Tati.
Mm-hmm. Oui.
Voilà, la confrontation entre Monsieur Hulot, qu'on retrouve, qui habite un modeste deux pièces dans un vieux quartier populaire, et sa sœur, qui vit avec un riche industriel et le fils de 9 ans, dans une maison ultra moderne. Voilà. C'est l'opposition de demande, en fait, celui de la poésie et de l'industrie.
C'est l'industrie.
Voilà. C'est sur Ciné Plus Classique à 18h45.
Eh bien, moi, encore une petite heure plus tôt, si vous voulez, sur Canal+.
Ah oui.
J'ai un film qui s'appelle Dali de Quentin Dupieux. Avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Berge, Jonathan Cohen, Pierre Marmaille. Et c'est l'histoire d'une, dans les années 70, d'une petite journaliste qui presse écrite, qui s'apprête à interviewer le monstre sacré Salvador Dali. Mais, comme il n'y a pas de caméra, bah, il refuse l'interview. Alors elle se démerde et puis elle va revenir avec une équipe de tournage et là il accepte. Donc voilà, et c'est un film totalement barré avec Dali qui se succèdent. Mais moi, parce qu'il y a Anaïs de Moustier, donc voilà.
Très bien. On passe à vendredi.
Vendredi, oui.
Alors,
oui.
Qu'est-ce que vous avez au programme?
Eh ben moi, sur RTL9 à 20h55. J'ai Terminator Renaissance avec Christian Bale et Sam Worthington.
D'accord. Et il y a pas il y a pas le deuxième après.
Il y a juste celui-ci et moi super. je l'aime plus, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve la franchise Terminator, ils s'en sortent plutôt bien.
Plutôt pas mal, ouais.
Voilà. Il y a le troisième qui est un peu too much, mais celui-ci il est assez chouette.
D'accord,
très bien. Et vous, voilà. Patrick ?
Eh bien, moi, ça va être très, très tard. Hein. C'est après Blade Runner, après machin, là, tout ça, Terminator. C'est à 23h35, figurez-vous, sur TMC.
Oula, c'est tard,
oui,
tout
bon,
ça.
Oui, on s'en fout, on travaille pas le lendemain.
Bah ouais, mais on a sommeil.
C'est un film d'Étienne Chatillaise.
Oh, bah d'autant plus. Oh.
La vie est un long fleuve tranquille.
Oui, bah on va s'endormir devant.
Non, mais allô, quoi.
Ça sent la naphtaline un peu.
Oh,
films,
oui, complètement.
Mais c'est génial comme
allons-y.
Film. Qu'est-ce que...
Non, mais c'est
le tout début de Baird de Benoît Magimel.
Bon, moi, je vais vous rafraîchir un peu.
Oui,
très bien. Très bien, merci Patrick. moi je vais vous proposer, comme je le fais chaque semaine,
un documentaire. Super.
Vous allez sur Ushuaïa TV.
Bah voyons.
Mais vous pouvez, c'est pas interdit. Il y a une très bonne série, mais qu'on peut retrouver sur d'autres chaînes aussi. Des trains pas comme les autres.
Ah oui, c'est vrai.
Googler.
Qu'on trouvait sur France 3.
La découverte d'un pays en empruntant un train qui le traverse, et puis les rencontres que ce Philippe Googler peut faire et qui lui informe sur le pays. Alors, il y a deux pays à visiter vendredi 24 janvier à 18h05.
Il y a le 93.
C'est le train de la Sierra qui se passe au Pérou, qui est une des lignes les plus hautes du monde. Et puis, si vous voulez changer de continent, à 19h, vous allez voir les Philippines. C'est très instructif, très instructif. C'est bien fait, c'est assez sympathique, je trouve. Voilà, on arrive au week-end. Alors moi, je vais vous laisser la parole parce que le week-end, je ferme la télé.
C'est une bonne idée.
Pourtant, samedi, Citer.
Et pourtant, samedi.
Sur Citer.
Non.
Il était une fois dans l'Ouest.
Non, alors moi, je l'ai pas pris parce que je savais que vous le prendriez.
À 21h10.
Parce que j'aime pas ce
film.
Donc
quand même... Quoi ?
Non, je préfère Il était une fois en Amérique, je suis désolé. Parce qu'il y a De Niro.
Bon, d'accord, c'est vrai. Mais Il était une fois dans l'Ouest, c'est quand même un classique.
Ouais,
genre,
c'est pareil, ça se pue la naphtaline.
Oui,
c'est un
alors,
film 76.
Non, mais,
bon,
non, mais elle est magnifique.
Bon. Claudia Cardinale.
Claudia Cardinale est magnifique dans ce film.
Oui. Donc, et Charles Bronson, il a des yeux aussi. De chinois aussi. Oui. Et il joue très bien de l'harmonica quand il est pendu.
Oh, mais vous êtes bien négatif, donc
non,
c'est un très grand film.
Il faut aller
le voir. Voilà,
bon, bah moi,
n'écoutez pas les méchants.
À 22h30 sur LCP Public Sénat, moi j'ai un très très grand film. Non, mais sans blague, hein. Henri Verneuil. Alors si je vous dis Yves Montand, Pierre Vernier, Jean-François Garraud et Roger Planchon.
Pas naphtaline, hein.
Ça sent un peu la nappe italienne aussi. Mais c'est Icomicar.
Ah ben bah oui.
La revisite du meurtre de JFK. Bon, c'est inégal, mais hyper intéressant quand même.
Tout à fait.
Ensuite.
Dimanche. Eh bien, dimanche, Arte. 21h.
21h, on a le même.
Martin Scorsese.
Bah oui.
Les Infiltrés.
DiCaprio, Matt Damon. Jack Nicholson, qui est fou, j'adore. C'est un film extraordinaire. Absolument extraordinaire.
Des flics, on suit des flics dans leur, dans leur infiltration, ouais. Dans un gang de...
Un qui est payé par le gang pour infiltrer la police, voilà, et l'autre qui est payé par la police pour infiltrer le gang. Et c'est un remake de Internal Affair, réalisé par Andrew Lau et Alan Mack. Un film de 2002.
Et voilà.
Et alors, on sort du week-end et me revoilà.
Comment allez-vous ?
Et je l'ouvre sur Arte à 20h55.
Oui,
se déroule l'Odyssée du sous-marin Narca de Robert Wise. Vous savez, Robert Wise, le réalisateur de West Side Story. Du premier Star Trek. On oublie ça aussi. Alors, c'est un film pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas claustrophobes. Hein, c'est un avertissement parce que l'action se déroule dans un sous-marin.
Qui est dans l'eau et qui est sous l'eau.
Ouais, c'est le principe à peu près du sous-marin, Lisu. Vous expliquerez. Vous allez sortir de votre bocal et vous allez comprendre de suite. Le commandant Richardson prépare son équipage à affronter le destroyer japonais qu'il a une première fois envoyé par le fond dans un autre sous-marin, évidemment.
C'est pendant la guerre.
Film, oui, bien sûr. C'est un film avec Clark Gable, Burt Lancaster et Jack Warden.
J'adore Lancaster.
Voilà.
J'aime beaucoup Jack Lancaster.
Alors après, lundi, vous avez quelque chose
Non, j'avais celui-là aussi.
Moi aussi.
Bon, ben on a fini alors.
C'est formidable.
Puisqu'on a fini, on va changer de registre.
On va changer de registre, on va retourner au cinéma dans les salles.
On va parler du Dahlia Noir, qui est un film américano-germano-français réalisé par Brian De Palma, sorti en 2006.
Et oui.
Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de James Ellroy, magnifique roman, lui-même inspiré de l'affaire du Dahlia Noir. Mais quelle est cette affaire, Patrick ?
Eh bien, elle débute le mercredi 15 janvier 1947 à 10h35 précise. Betty Bersinger et sa fille se promènent le long d'un terrain vague dans le quartier de Leimert Park à Los Angeles. Approchant la 39e rue, Betty découvre une chose étrange, comme un mannequin de magasin qui se serait brisé en tombant d'un camion. Mais le second regard porté à la base blanche glace la jeune femme. C'est un cadavre coupé en deux. Alors il y avait tout dans ce fait divers pour en tirer une intrigue, surtout que le crime n'a jamais été résolu. Et James Ellroy s'en est donc inspiré et sort en 87 son roman. Brian De Palma, dont on connaît la virtuosité et le sens du cinéma, en a fait une adaptation remarquable et pourtant décriée par les puristes. Bande annonce.
Elle s'appelait Elizabeth Short. Elle était jeune et belle, bien décidée à devenir célèbre, destinée à l'être atrocement.
Écoutez-moi bien. Aucun journaliste ne doit voir le corps.
La victime a été coupée en deux. Elle a été vidée de tous ses organes et de son sang. Et sa bouche a été ouverte d'une oreille à l'autre.
Ce fut le meurtre le plus célèbre de l'histoire de la Californie. Pour le public, c'était un meurtre à sensation.
Nous allons arrêter ce tueur.
Pour nous, ça devenait une obsession. Des coulisses du pouvoir...
Qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom n'apparaisse pas ?
À la flicaille du caniveau.
Elle ressemble à la morte, tu es complètement fou !
Chaque vie impliquée était anéantie.
J'ai fait l'amour avec Elizabeth une fois. Je voulais voir comment c'était de le faire avec une fille qui me ressemblait autant.
Rien ne reste enterré à tout jamais. Rien.
Il se dégage du film la sensation de se débattre dans un rêve. Tout et tous sont suspects. Sauf George Hartnett, l'ange corrompu tâchant de démêler le vrai du faux. On éprouve une grande solitude dans un monde semblant en vase clos, où tout est en trompe-l'œil à l'intérieur. Sous les apparences chatoyantes et d'autres mensonges, on motivation trouble. De Palma transforme chaque élément en avatar d'une tragédie, allant et venant entre les délires, la sensualité et la grimace grotesque.
Alors De Palma, c'est une patte, hein, c'est un style inimitable. Quand vous voyez un des plans avec demi-bonnette, vous pouvez vous douter, sans même avoir vu le film, de qui il est. Il a beau avoir chuté ces dernières années, il a tout de même de sacrés chefs-d'œuvre dans des styles aussi divers que variés. Ouais. Si vous ne savez pas ce qu'est une demi-bonnette...
C'est le cas.
Vous ne savez pas ? Non. Alors je vais vous l'apprendre. Eh bien, ça consiste en une lentille diamétralement coupée en deux et placée devant l'objectif. Ça permet d'obtenir la mise au point... Non, on se calme. C'est une lentille de cinéma, ce n'est pas une lentille pour les yeux. Ça permet d'obtenir une mise au point à deux endroits de la profondeur et simultanément dans le même plan, figurez-vous.
Bon, d'accord, je vais revenir à quelque chose de plus clair quand même.
Non, mais c'est de la technique, là, c'est
parfait. Oui, voilà, mais ça, c'est très compliqué.
Bah, c'est très compliqué.
Très compliqué.
Alors, l'interprétation.
Mais c'est très bien.
Et les magistrales.
Oui.
Il faut dire que le casting est 5 étoiles. Donc, on a parlé de Josh Hartnett.
Oui.
On y rajoute Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank. Bah, malgré cette distribution, le film n'a pas obtenu une grande adhésion du public et des critiques.
Et parce que les tenants d'un certain respect des dogmes des années glorieuses du cinéma noir des années précédentes ont critiqué cette manière non conventionnelle de Brian De Palma de faire du cinéma. L'utilisation importante, abusive selon certains, des plans séquences. La caméra en mouvement, souvent portée, donne une construction dramaturgique innovante. Alors, le résultat est brillant pour les uns et médiocre pour les autres. Alors moi, inutile de vous le dire, j'aime De Palma. J'aime ses films, comme bien entendu, évidemment, Les Incorruptibles, formidable, Scarface, Phantom of the Paradise, qui est le premier film de De Palma que j'ai vu d'ailleurs, et Carrie au bal du diable. On en a parlé il y a deux ans, je crois, de Carrie au bal du diable. Oui. Et la musique du film est composée par Mark Isham.
Dis donc, ça plombe bien, cette musique. Oui. C'est vraiment dans les bas-fonds, dans le Dahlia Noir. C'est l'anti-Colombo complet.
Ah oui.
Los Angeles,
c'est pas du tout...
du bas-fond, quoi.
C'est sombre.
On va retourner en France pour le film suivant, le film du réalisateur autrichien Michael Haneke, Caché, sorti en 2005. Il se situe dans la même veine d'angoisse profonde que ses précédents films, confrontant les personnages comme le spectateur à des peurs presque irrationnelles. C'est de la gestion personnelle de la culpabilité et de la capacité à se confier à ses proches ou à communiquer dans le couple qu'il s'agit ici.
Georges et sa femme ont tout, argent, confort et amis qui vont avec, sans oublier la progéniture choyée. Présentateur d'une émission littéraire, Georges occupe un poste prestigieux et exposé, intellectuel et médiatique. Sorte de Bernard Pivot, il s'offre aux caméras télé.
Alors tout va bien, dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où une cassette vidéo va lui montrer qu'il est filmé à son insu. Il reçoit des vidéos filmées depuis la rue, où on le voit avec sa famille, ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Peu à peu, le contenu des cassettes devient plus personnel, ce qui laisse supposer que l'expéditeur connaît Georges depuis longtemps. Georges sent qu'une menace pèse sur lui et sur sa famille, mais comme cette menace n'est pas explicite, La police lui refuse son aide. Bande annonce.
On nous envoie des vues de la maison.
La cassette fait plus de 2 heures.
T'as pas une idée, toi, qui pourrait s'amuser à ça?
Depuis plusieurs jours, on reçoit des paquets et des coups de fil anonymes. Quittez l'appareil.
Comment j'ai fait pour pas le voir, ce type, c'est un mystère.
Mais là, on ne savait pas qui filme ça et comment.
Ma secrétaire allait poser une cassette sur mon bureau. La cassette vous montre, lors d'une conversation privée, une sorte de studio. Ce type veut ruiner votre carrière.
Je sais, j'ai été idiot de te mentir. Excuse-moi, je t'en prie.
C'est peut-être un de tes fans. Tu connais pas cet immeuble?
Non.
Vous n'avez aucune idée de ce qui me pousse à faire ça?
Il voulait peut-être me tenir au courant, contrairement à toi.
Tu peux pas me faire simplement confiance?
Moi, je dois te faire confiance! Pierrot est déjà au lit?
Je croyais qu'il était avec toi.
Le film a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2005. Juliette Binoche, rongée d'inquiétude, est plus puissante que jamais. Et Daniel Auteuil, mari tâchant de faire bonne figure, vire au trouble et presque à l'indécent. Tant son personnage refuse de s'impliquer. Paranoïa, culpabilité, aveux sont au programme de ce film, fort et perturbant.
Interrogé sur ses intentions lors de la conférence de presse cannoise, le cinéaste notait.
C'est au spectateur de décider la façon de voir le film. Je ne suis pas un maître d'école, je n'ai aucune leçon à donner. Je doute qu'on puisse avoir une idée de la vérité quand on regarde un film. Je dis toujours qu'un long métrage, c'est 24 fois par seconde le mensonge, peut-être au service d'une vérité, mais pas toujours.
Oui, avec une simple scène de ménage où Juliette Binoche, ulcérée par le manque de confiance de son mari, explose et implose à la fois, Haneke pose les jalons d'une fêlure qui se propage de l'homme au couple. De là, il crée un véritable suspense à la tension grandissante. Caché, porte un secret qui peut être sujet à bien des interprétations.
Alors, outre Juliette Binoche et Daniel Auteuil, la distribution comprend Annie Girardot, Maurice Benichoux, Bernard Lecoq et Denis Podalydès.
Pas mal, pas mal. Petite anecdote.
Oui.
On assiste à l'enregistrement d'une des émissions littéraires animées par le personnage que joue Daniel Auteuil, avec comme invité, à l'occasion d'un débat autour d'Arthur Rimbaud, les écrivains Jean Tellet, paix à son âme, Philippe Besson et Mazarine Pinjot, qui fut longtemps la fille cachée de François Mitterrand.
Et oui,
la musique du film est signée Ralph Rickerman, qui a été le bassiste du groupe Scorpion.
Suivant le fil, mon cœur a tangué. Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Eh oui, c'est génial ce genre de spectacle, surtout quand il s'agit de films que l'on va voir dans les salles de cinéma, dont nous allons vous parler maintenant.
Qui sortent demain, c'est ça ?
Qui sortent demain, bien sûr, oui, puisque nous sommes mardi et que les sorties sont le mercredi au cinéma.
C'est la séquence, les sorties de demain.
Voilà, c'est la séquence, les sorties de demain.
Et alors, vous avez quoi, vous ?
Oh ben moi, j'en ai trois, mais je vous laisse choisir celui que
vous
voulez.
Non, moi, je n'en prends qu'un. Je vais vite en parler, parce que c'est Jouer avec le feu des sœurs Coulin, Delphine et Muriel, avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin. Et Stéphane Crépon. Alors, l'histoire d'un père de famille qui élève seul ses deux fils. Alors, le cadet, pour lui, ça va très bien, ses études, sa vie privée. Par contre, l'aîné, lui, il pose de gros problèmes. Il fréquente les groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de son père, évidemment, qui est impuissant devant ses fréquentations. Voilà. C'est un film sur l'amour paternel, l'amour filial, mais aussi sur l'inné et l'acquis, puisque deux fils d'une même famille ne suivent pas le même chemin.
Ouais, parce que forcément, ils n'ont pas la même éducation.
Voilà.
Alice, vous avez quelque chose ?
Oui, alors moi j'ai La Voyageuse de Hong Sang-soo. Oui,
ben merci. Elle est partie, là.
Avec Isabelle Huppert. C'est ça a l'air, en tout cas, d'être un très joli film sur une femme. Donc Isabelle Huppert, Iris, a récemment débarqué à Séoul pour faire face à ses difficultés. Elle enseigne le français à deux Sud-Coréennes avec des méthodes bien à elle. On va à travers la peinture, la poésie et le voyage et la balade dans Séoul, on va vraiment découvrir une très jolie ville.
Parfait.
Parfait.
Isabelle Huppert, elle est lumineuse.
Puisque vous me le demandez, moi j'en ai un aussi. Il s'appelle Jane Austen a gâché ma vie. C'est de Laura Piani avec Camille Rutherford, Pablo Paoli et Charlie Hanson. Alors Agathe a autant de charme que de contradictions. Elle est célibataire mais rêve d'une histoire d'amour digne des grands romans de Jane Austen. Elle est libraire mais rêve d'être écrivain. Elle a une imagination débordante mais une sexualité inexistante. La vie n'est jamais à la hauteur de ce que lui a promis la littérature. Elle est invitée en résidence d'auteur en Angleterre et là, Agathe devra affronter ses peurs et ses doutes pour enfin réaliser son rêve d'écriture et tomber amoureuse.
Ah bah ça fait beaucoup de voyages.
Ça fait beaucoup de choses. Hein.
C'est bien. C'est très bien.
Et bien voilà.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Et bien voilà.
Non, quoi
Ciné-sans, c'est fini.
Ah non, arrêtez un peu, vous le dites à chaque fois.
Mais c'est pour aujourd'hui.
Ah d'accord. Okay.
Mais vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres en podcast sur le site d'Ode Radio. Nous nous retrouvons en direct mardi prochain, si vous le voulez bien.
Où
notre épisode numéro 16 nous ramènera dans l'année 1969.
Et alors, figurez-vous que ce sera à 14h sur l'Ode Radio 91.3, bien entendu.
Et Jean-Jacques, pardon, vous m'avez perdu, Patrick.
C'est pas grave.
On se quitte avec la chanson Perle du jour.
Alors voilà, le grand Jojo. C'est une icône belge qui est décédée en 2021. D'accord. Et alors en 98, il sera même nommé chevalier dans l'ordre de Léopold, figurez-vous. L'ordre le plus important de Belgique, c'est pas n'importe quoi. En 1980, il interprète Patrouille de nuit, une parodie des pratiques policières.
Allez, à mardi prochain et en attendant.
Bon vent à tous.
Minuit, toute la ville dort. Seule une voiture circule. C'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important.
Centrale appel voiture 27. Prière de nous apporter un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs et trois sachets de frites. Au revoir. Appel voiture 27. Renouvellement commence. Un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs, trois sachets de frites. Au revoir.
voiture 27, appel central. Nous confirmons commande. Un sandwich de jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs de fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs et trois sachets de frites. Over.
Et la voiture 27 rentra au poste. Bilan de l'opération. 30 contrôles d'identité, 2 arrestations et 1 sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, 1 pistolet au pâté, 3 sachets de frites.